Bienvenue sur Point de sauvegarde, le podcast jeux vidéo de la médiathèque Boris Vian de Chevilly-Larue, présenté par Blaise, Franck et Marie. Chaque mois, ou plus si affinité, nous vous partageons nos expériences sur un jeu vidéo présent à la médiathèque. Bonne écoute et n'oubliez pas de sauvegarder!
Salut Marie.
Salut. Salut Blaise.
Ça va, vous allez bien?
Waouh, j'ai été surpris par le switch en fait.
Ah ouais. Non, mais là c'est bon, je suis chaud.
C'est wow. Incroyable. Il faut qu'on vous dise, parce qu'il y a 30 secondes, il était en mode.
Ouais, mais il est très tôt le matin, donc.
Ah, mais il est très tôt le matin, finalement. Vraiment, il est 9h37.
C'est très tôt pour moi.
Ah ouais, bah ouais.
C'est très tôt pour moi.
Quelle vie.
Bon, ça va, ouais, vous allez bien?
Tout est bon. Nickel.
Chips. Donc on est là. Aïe 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 aïe, ça y est.
Oh, Franck va pleurer parce
que
c'est
que faire un podcast sans qu'il puisse parler. Peut-être qu'on ira plus vite.
Bon, donc je fais sauter le chips.
On est là pour le troisième épisode de la trilogie.
Yes.
La trilogie de présentation de personnel.
J'ai bien écouté vos deux présentations, elles étaient très très intéressantes. Néanmoins.
Oui.
Néanmoins, moi j'aimerais vous parler d'un genre de jeu vidéo.
Non mais comment ça, Blaise? C'est pas possible.
Quoi?
Non mais
comment?
Je suis absolument surpris. Ça ne te ressemble pas.
Merci de faire comme si que. Ça fait plaisir.
Moi, je dis juste que j'avais prédit qu'il allait faire une connerie sur cet épisode-là,
mais oui, bien sûr.
C'est pour ça qu'il a insisté pour être le dernier, tu vois.
J'insistais
pour passer en dernière, parce que j'étais, ouais, vous allez faire des trucs chelous et tout, tous les deux, je le sentais. Et Blaise, non, je passe le dernier dans l'enregistrement de mon épisode.
Avant que tu commences, il faut quand même rappeler que c'est le dernier épisode qu'on enregistre avec Marie, notre chère Marie, puisqu'elle s'en va vers d'autres contrées. Vivre de nouvelles aventures et qu'elle sera très 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 amèrement regrettée. Voilà.
Ouais. Bah alors chronologiquement, il y a un truc qui va pas parce que techniquement, au moment où cet épisode sortira, tu seras déjà parti depuis quelques temps.
Et ben c'est comme ça.
Bah, de toute façon, on l'a déjà annoncé dans les deux d'avant.
La troisième fois que vous entendez cette information.
Exactement.
Ouais. Mais c'est parce que Franck a encore du mal à la digérer.
Il faut bien 3 mois au moins.
Ouais, pour l'encaisser, c'est
ça
clair.
Ça fait déjà bientôt 3 mois, donc t'es au courant?
Ouais, mais pour les gens qui écoutent le podcast,
c'est vrai.
Voilà. Savoir se remettre de cette info. Alors, pour revenir sur la partie,
si tu oses dire sérieuse de ce podcast, je te jure que je me lève.
Non, mais j'aimerais bien récupérer le bâton de parole, s'il vous plaît.
Ah, bah, tu l'as tout le temps.
Moi, je suis parti de la réflexion à partir d'un genre de jeu vidéo et en fait j'ai intitulé ma chronique pourquoi le Metroidvania est le meilleur genre de jeu vidéo.
Waouh.
Toujours dans la demi-mesure.
Exactement.
Voilà, ça pose les bases de là où je vais en venir. Donc déjà le Metroidvania, ça peut marcher.
Finalement, attention, c'est déjà un mix entre deux styles, donc tant qu'à faire.
Ça peut marcher, ouais. Alors, vous savez, vous, un petit peu déjà ce que c'est le Metroidvania ou pas?
Non.
Bah, normalement, si vous avez bien écouté.
Non, on voudrait que tu nous expliques,
Blaise. On t'a pas assez entendu.
Explique-nous, Blaise.
J'explique. Donc, normalement, vous avez capté que dans le nom du jeu, on repère deux entités qui se sont mergées en fait
Que veut dire merger?
Merger, mélanger,
mélanger, c'est ça. Ouais,
ouais, c'est un mix en fait entre deux mots, donc deux titres de jeu même, Metroid et Castlevania. Mm. Et en fait, c'est littéralement un mélange entre deux genres de jeux qui va devenir un nouveau genre de jeu. En fait, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant.
Ok, d'accord.
Je crois que je me désolidarise des blagues qui sont faites sur ces trois épisodes.
C'est osé quand même. C'est osé.
C'est comme un enfant.
À sa décharge.
À ma décharge, voilà, exactement. Ouais. J'ai des obsessions en ce moment, je sais pas pourquoi. Metroid, et notamment Super Metroid, qui est sorti sur Super Nintendo en 96.
Je sais plus.
95.
J'étais
94.
Là, mais je sais plus.
Putain, je l'ai dit hier en plus. Hein.
Ah ouais? Si non, je crois même pas.
si, je te jure.
T'as pas dit la date?
Non, je crois pas.
Donc, ouais, Super Metroid, qui est un jeu.
Je sais pas savoir.
Hein?
On peut pas savoir si tu l'as dit hier ou pas.
On saura jamais. Mais du coup, les gens viennent de comprendre qu'on avait déjà enregistré cette émission qui n'a pas été enregistrée.
Non, on
ne
l'a
fait.
Pas enregistrée.
Exactement.
On a déjà parlé pendant bien trois quarts d'heure.
Exact.
Non,
dans un micro éteint.
20 minutes.
Mais bon, on reste frais, on repart de zéro. Donc le Metroid.
Super Metroid, du
Super Metroid et Metroid, du coup, c'est des jeux de plateforme en 2D, mais qui sont, pour la première fois, non linéaires. Donc avec un vrai level design pensé en labyrinthe et pas de droite vers la gauche comme ça se faisait à l'époque, notamment avec Super Mario World et tout.
Super Mario Bros. Oui, oui.
World, bref. Et l'idée, c'était de proposer un jeu d'exploration qui soit pas linéaire et qui force le joueur à systématiquement revenir sur ses pas parce que de nouveaux passages s'ouvrent, de nouveaux endroits s'ouvrent en fonction de l'évolution du personnage au cours du jeu. Donc le personnage en question, c'est Samus, donc qui a sa fameuse armure qui va s'étoffer de gadgets petit à petit qui vont permettre de débloquer de nouveaux passages. Donc souvent on parle du double saut, de la bombe, du fait de pouvoir se mettre en morph ball pour passer dans des tunnels, des choses comme ça. Donc ces pouvoirs vont ouvrir de nouveaux accès dans le level design. Et du coup, c'est par l'évolution du personnage qu'on va explorer la carte et ça va demander du coup une réflexion dans la manière d'aborder les différents chemins, bien se souvenir de où sont les endroits qu'on a laissés de côté parce qu'on ne pouvait pas y accéder. Et ça va beaucoup plus stimuler l'intellect que le jeu de plateforme où finalement là on va de gauche à droite. Alors il y a un challenge souvent technique, mais dans l'absolu, là on rajoute une surcouche d'exploration qui est vachement intéressante. Donc après Super Metroid sort le premier. Metroidvania qui est un jeu Castlevania, qui est Castlevania Symphony of the Night, coproduit par Koji Igarashi, qui va lui proposer un changement de formule à Castlevania et proposer une nouvelle forme de level design en s'inspirant de Super Metroid, donc en intégrant un level design labyrinthique et qui va proposer le même genre d'évolution et d'exploration à la Metroid. Donc là, l'idée, c'est qu'on est dans le château, de Dracula, et on va devoir l'explorer de la même manière, donc avec des chemins, des passages qu'on va petit à petit débloquer, des raccourcis avec des ascenseurs, des trucs comme ça, qui vont nous permettre de bien revenir en arrière, faire des boucles dans le château, et en fait explorer petit à petit un espèce de grand labyrinthe dont on va petit à petit
découvrir
intégrer le level design, découvrir l'ambiance de chaque zone, etc., etc.
Il y a aussi un petit plus dans ces jeux, en fait. Il y a un côté...
Effectivement, il y a le côté RPG, en fait, qui a été rajouté aussi par
Donc, jeu de rôle en français.
Jeu de rôle. Donc, qui va impliquer d'avoir un personnage qui a des statistiques, qui peut utiliser des armes différentes... qui peut utiliser des pouvoirs différents et qui va avoir une évolution statistique, qui peut équiper des vêtements, des anneaux spéciaux, des choses comme ça. En fait, toutes les mécaniques JRPG qu'il y avait à l'époque dans les Final Fantasy, par exemple, vont s'intégrer dans ce jeu d'action-là, alors qu'au départ, c'était surtout un jeu d'action plateforme. Enfin, les premiers Castlevania et le dernier avant, le Super Castlevania, c'était un jeu d'action, on avait une arme, quelques objets, mais c'était pas du tout pensé comme un RPG avec une évolution du personnage, des statistiques, tout ça.
Ok.
Donc ça, c'est la première étape de l'évolution de ce genre. Et donc on est en 97 et Castlevania va devenir l'espèce de seul représentant dans les années 90-2000, le seul représentant de ce genre. Il n'y en a pas vraiment d'autres qui vont sortir après. Et en fait, il faut attendre l'arrivée du jeu indépendant pour que ce genre revienne un peu sur le devant de la scène grâce au jeu indépendant. Il y en a pas mal qui sont sortis ces dernières années. Je ne sais pas si vous en avez en tête.
Bon, si, Hollow Knight, c'est le big représentant, je pense, de ce type de jeu qui a été porté au nu.
Et on attend toujours la suite.
De Hollow Knight, ouais, tout à fait.
J'aime bien, suite, et puis là où ça fait mal.
La suite, Silksong, ouais.
La suite, non, mais elle sortira cette année, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, ouais, Guacamelee aussi.
Ouais. T'es chouette.
Tous les Ori. Donc, Ori. Ouais.
Ori and the Blind Forest.
Et Ori and the Wheels of the Will of the Wisps.
Ouais.
Dur à dire.
Dur à dire. Donc ça, c'est pour les, ouais, les Metroidvania 1D.
Mais attends, Blaise, parce que quoi nous, quoi on a parlé d'un jeu, du coup.
Ouais.
Toi, tu nous parles d'un genre de jeu, mais il y a bien des représentants, des héritiers, de, du coup, dont tu vas nous parler, en fait.
Ben, j'arrive.
Ah,
j'arrive. Okay. J'arrive. Donc,
j'ai eu peur.
Partant de Castlevania, moi, j'ai envie de parler d'enchaîner sur un jeu qui s'appelle... Enfin, deux jeux produits par un studio espagnol qui s'appelle The Games Kitchen, qui est un studio indépendant espagnol de Séville, qui va lui proposer un nouveau style de jeu, un nouveau style visuel pour habiller leur Metroidvania, donc qui s'appelle Blasphemous. Je viens de le dire, non?
Non, tu l'avais pas dit. Tu t'es foreshadowé, mais en fait...
T'as l'impression de l'avoir dit, mais parce que tu l'as dit hier.
C'est bizarre. Non, ouais, Blasphemous 1, donc sorti en 2019, et Blasphemous 2, sorti en 2023, qui sont des Metroidvania indépendants, avec une forte ambiance rétro, parce que c'est du pixel art, mais qui ont un design, dans l'absolu, assez moderne. Et qui vont ramener des éléments modernes dans le level design. C'est des super jeux qui proposent une ambiance, un style visuel assez unique. Donc c'est des, comme je disais, c'est des Espagnols sévillans.
Bah alors, je sais pas, parce que j'ai en tête comment on dit en espagnol du coup.
Ah mais dis-le nous.
Sévillanos, mais.
Sévillanos.
Ouais.
Bon, donc, on peut partir
comme ça. Sévillanos.
Ouais.
et donc ils s'inspirent pour construire leur jeu. Ils s'inspirent de donc visuellement et esthétiquement de leur environnement culturel, et notamment de la Semaine Sainte, et de tout le décorum esthétique que peut impliquer la Semaine Sainte. Il suffit d'aller voir quelques images sur Google pour se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose d'assez marquant et fort dans le style visuel qui est présenté en fait dans les costumes, dans les chars. Enfin, c'est pas des chars, c'est des... Comment t'appelles ça, les trucs là qu'ils portent?
Je pense à Baldaquin, mais c'est pas ça en fait. C'est mais bref, oui, on voit les trucs qui sont portés par des porteurs
trucs,
en fait.
Très avec des doublures de dingue.
Pas carrosse non plus du coup.
Mais donc des choses comme ça, avec toute l'atmosphère religieuse un peu pesante, un peu malsaine que ça peut avoir. Et en même temps, avec la contradiction que ça peut apporter au sein de des personnes pratiquantes et tout. Et en fait, le jeu s'inspire de ça en proposant un univers dark fantasy, vraiment dark, mais qui s'inspire pas des poncifs de la dark fantasy classique, donc avec plutôt des monstres, plutôt de la mythologie souvent. Là on va vraiment sur quelque chose de qui s'inspire de l'Inquisition, qui s'inspire de l'histoire de l'Espagne, et franchement c'est hyper
c'est chouette.
Hyper chouette, tout à fait, le premier,
j'ai fini le premier, je l'ai trouvé excellent. Malheureusement j'ai pas fait la vraie fin, parce qu'il y a il y a deux ou trois fins je crois, et je l'ai pas recommencé depuis, mais ouais, c'est trop trop bien, le toute l'imagerie autour du sang, de la chair, de la contrition, des blessures genre divines,
de la souffrance,
c'est trop trop bien, c'est vraiment trop trop bien.
Il y a quelque chose d'assez,
la beauté
ouf
des décors aussi,
et je trouve que les deux jeux se répondent bien. Moi je conseillerais plutôt de commencer par le 2, parce que c'est celui qui est avec le gameplay le plus accessible, le plus récent, le mieux fait. Je trouve que le premier, pour moi, ils ont vraiment mis le paquet sur l'aspect esthétique visuel, où c'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus fort. Le deuxième, c'est un peu plus, enfin le gameplay un peu plus nerveux. On a plusieurs armes, on a des phases de plateforme un peu plus dynamiques. Donc les deux jeux sont vraiment différents. Je trouve que le premier est plus lourd, plus viscéral, et le deuxième un peu plus aérien, un peu plus dynamique. Donc après, c'est à voir ce que vous ce que vous préférez. En tout cas, on a les deux à la médiathèque. On a le premier sur PlayStation 4 et le deuxième sur Switch. Faut pas hésiter à y aller. C'est un très bon... pour moi, c'est un des meilleurs représentants, surtout le 2, peut-être un des meilleurs représentants de ce qui peut se faire en termes de Metroidvania rétro, quoi, avec cette espèce d'ambiance rétro. Je sais pas si vous vous rappelez le début de ma... Le début de ma chronique sur pourquoi le Metroidvania est le meilleur genre de jeu vidéo.
Bah oui, oui.
Ouais, vous en rappelez, ouais.
On l'a entendu deux fois, donc on la connaît bien.
Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus?
Est-ce qu'on sera censuré si on dit quelque chose qui va à l'encontre de ton...
Non, non, pas du tout.
Non, mais vas-y, déroule ton truc. De toute façon, t'es parti là. Il a hacké le podcast.
Exactement. Il y a un côté scolaire un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui dévient?
C'est ça l'affaire que
exactement,
tu me tendais.
Exactement. Mais
vas-y, redis ce que t'as dit.
C'était... Là, on est dans un truc. C'est.
Donc, ouais.
Attends, je reprends mon truc. Alors,
Vas-y. Let's go.
Donc, Blaise, oui. On peut dire que c'est assez scolaire le Metroidvania.
Quoi,
parce que du coup.
Comment scolaire?
Parce qu'il y a ce côté de tu passes devant des passages auxquels tu n'as pas accès. Il faut s'en rappeler pour ensuite revenir dessus quand tu as débloqué les compétences pour y aller.
Ouais, carrément, c'est un des écueils.
J'aurai un Oscar pour ça.
Jamais vu un jeu d'acteur aussi. Il y a effectivement des écueils dans ce genre-là, et notamment effectivement le côté scolaire qui peut parfois prendre le pas sur certaines subtilités et certains esprits de découverte, en fait. Le jeu, souvent les Metroidvania, et notamment les plus connus, ont une proposition très très scolaire, avec toujours les mêmes codes, toujours le même schéma, qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, on comprend très bien comment le jeu fonctionne et on n'est plus surpris et déstabilisé par l'exploration du jeu. Souvent, le twist Metroidvania, il est intéressant quand il arrive un peu comme ça et qu'on n'a pas forcément conscience au début qu'on était dans ce jeu-là. Et alors que maintenant, les jeux sont très stéréotypés, très standardisés, et il y a plein de clones qui sortent maintenant. Donc on avait The Last Face cette année.
Bloodborne.
Il y a un jeu qui s'appelle Deflecto, qui est un... Enfin, alors je sais pas si vous avez un téléphone ou un ordi allumé là.
Un téléphone, ouais.
Est-ce que vous pouvez aller voir, quelqu'un peut aller voir le trailer de Deflecto et me dire si c'est abusé ou pas.
C'est un moment radiophonique de perfection.
Non, mais...
Ah oui, d'accord, ok, on est... Ouais.
Hein ? Bon.
Ouais. Mais c'était quel jeu, là, qui était sorti il y a quelques années et qui faisait un copier-coller de Zelda, je crois, quasiment
Le truc d'Ubisoft, là.
Ouais.
C'est marrant. Immortal Phoenix Rising.
Ah oui, ouais, voilà. Bah là, on a un peu un copier-coller de Hollow Knight.
Ouais, hein, c'est...
Même dans le chara-design.
C'est un peu too much, hein. C'est un peu too much, et clairement, ça exprime bien le fait que c'est un genre de jeu qui est si scolaire qu'en fait il est presque facile à émuler, à copier, en fait.
Bon, là, il s'agit quand même beaucoup de... Parce que bon, le coup des couloirs en 2D, ouais. En 2D, bon, c'est Castlevania, évidemment,
oui, non, mais...
Metroid. Par contre, là, stylistiquement, Deviator. Stylistiquement, graphiquement, ils reprennent Hollow Knight.
Last Face reprenait Blasphemous, c'est comme... Je pense qu'il y a une facilité... Il y a une facilité à créer ce genre de jeu et à juste imprimer des codes sur un blueprint en disant bon, ok, vas-y, on fait un Metroidvania, ok, esthétiquement on va aller chercher ça, on fait notre truc et basta. Et en fait, ça, je trouve, ça permet déjà de dire qu'il y en a qui sortent de l'ordinaire sur desquels les autres s'inspirent. Donc Hollow Knight et Blasphemous sont pour moi ceux qu'il faut faire, et j'en viens à mon dernier point et non des moindres, qui est que en ce début d'année 2024 est arrivé quelque chose qu'on n'était pas forcément en droit d'attendre et qui pour moi est une petite révolution dans le milieu jeu vidéo mainstream.
J'apprécie toujours sa demi-mesure, hein,
Une petite révolution dans le jeu vidéo mainstream, c'est une proposition, et là vous allez tomber de vos chaises plus que de raison, c'est que je suis en train de prendre mon pied sur un jeu Ubisoft.
Ah !
Ah ouais ! Ok.
Attends, je tombe de ma chaise.
Donc...
Attends, ça j'avoue, je m'y attendais pas. Ok,
donc,
là,
vous êtes ok, on est ok là-dessus.
Mais tu parles du fameux Prince.
Je parle de Prince of Persia, The Lost Crown.
Ah oui, on en est là, parce que moi, mardi, c'était... Ouais, là. Il est pas mal, je l'apprécie bien. Enfin, il a des bonnes... Ok, là, on en est maintenant. je prends mon pied sur Prince of Persia.
Je prends mon pied sur Prince of Persia, qui est disponible à la médiathèque sur Switch à l'heure où sort ces podcasts. Normalement.
Bah, sauf si il a été acheté et que vous ne l'avez pas catalogué et que quelqu'un l'embarque.
Non, mais moi j'y joue. Moi j'y joue. J'y joue déjà d'ailleurs dans des conditions optimales. Je kiffe un jeu Ubisoft. Et ça, franchement, pour moi, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et je suis assez. Je pense que le dernier, ça devait être vraiment Rayman Legends, tu vois.
Ouais.
Et donc, The Prince of Persia The Lost Crown est produit par le même studio, en fait, que Rayman Legends, donc Ubisoft Montpellier.
Ok.
J'ai dit Cocorico.
Cocorico, déjà. Je trouve que, franchement, on est chaud en France, là, en ce moment.
Bon, il y a quelques bons jeux, ouais, qui sortent.
Là, juste sur la fin de l'année, Jusant, Chains of Senna, Prince of Persia. Donc, ouais, je kiffe un jeu Ubisoft. Et pourquoi je kiffe un jeu Ubisoft? Parce qu'il propose... Une interprétation du Metroidvania et de Prince of Persia qui est brillante. C'est-à-dire qu'ils reprennent le genre du Metroidvania, ils le digèrent à la sauce Ubisoft. Alors, il y a une esthétique visuelle critiquable.
Oh, elle est sympa, mi-comics, mi-manga en fait.
Faut apprécier, oui, franchement,
déjà,
faut apprécier.
Déjà, t'as dit mi-comics, mi-manga, j'ai vomi à l'intérieur de...
Mais non, mais ça s'est pas entendu.
Non, mais
ça s'est
pas entendu. C'est spécial quand même, je trouve, comme esthétique.
C'est pas très joli.
Bah,
ah ouais.
Pour un truc de 2024, je trouve que c'était osé. Enfin,
ah ouais,
c'est pas...
Moi, je trouve sympa. Hein,
j'avoue que quand j'ai vu les designs, je me suis dit, mais ils se fichent de qui? Enfin,
c'est pas très joli. Après, le trailer rend pas vraiment hommage au jeu parce que, effectivement, le chara-design n'est pas très réussi. L'histoire du jeu et les cinématiques du jeu sont bien produites, mais elles sont pas très... Enfin, moi, je les trouve pas très jolies, tu vois, visuellement, le style visuel. Par contre, l'ambiance in-game, des niveaux, la musique, tout ça, est vraiment, vraiment, vraiment réussi. En fait, ils sont allés chercher...
Il l'a dit trois fois, vraiment.
Ouais. Ils ont repris tous les codes, ils les ont digérés, ils en proposent quelque chose d'hyper malin. Donc, il y a, allez, trois points sur lesquels je m'attarde vite fait, et après, on s'arrêtera parce que il commence à être temps. Premier point, le gameplay des combats est hyper malin.
Ouais.
C'est-à-dire que ils sortent du côté très simpliste que pouvait avoir un jeu, par exemple, comme Hollow Knight. Hollow Knight, on a un combat qui est on a quelques pouvoirs, mais dans l'absolu, on a une épée, il y a un coup. Je crois que quand on appuie trois fois sur la touche, ça fait vite fait un combo, mais pas plus que ça. Mmh. Enfin, c'est pas un jeu qui est vraiment qui met en valeur son système de combat.
Il y a des contres là.
Alors que là, ils sont allés partout. Il y a des contres, il y a du juggle, il y a des combos qui s'étoffent.
Tu peux expliquer le juggle, s'il te plaît ?
Juggle, c'est le fait de balancer un ennemi sur un jeu en 2D, de balancer un ennemi en l'air pour lui faire un combo en l'air.
Okay.
Et c'est pas forcément un truc que tu vois partout. Mmh. Et en fait, moi, je trouve que le système de combat, ils sont allés chercher du côté d'inspiration de ouf. Notamment Devil May Cry,
oui.
Sur plein enfin, ils sont vraiment allés chercher des systèmes de combat qui n'appartenaient pas à l'origine au Metroidvania. C'est-à-dire que Metroidvania, généralement, le combat est simple. C'est-à-dire que c'est pas le point du jeu, en fait.
Non, tu mets des coups,
tu les monstres et tu passes à autre
chose.
Comme
tu sautes sur la tête de tes ennemis dans un Mario, quoi, en fait.
C'est ça. C'est simpliste, mais parce que c'est pas le cœur du jeu. Mmh. Là, il y a vraiment un renversement là-dessus. Les combats sont ouf, tu peux très vite commencer à faire des combos hyper intéressants, même sans forcément te compliquer la vie. Les pouvoirs que tu débloques dans le jeu sont vraiment vraiment malins parce qu'ils te permettent de résoudre des puzzles, d'être plus efficace en combat et de mieux explorer la map. Enfin, tout est vraiment 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 réussi. Deuxième point, la musique du jeu, donc, qui est composée par un gars qui s'appelle Gareth Cooker, qui est en fait le mec qui a composé les musiques de Ori.
Ok.
Ok.
C'était chouette.
Donc en fait, ils sont allés chercher aussi des gens qui savaient travailler sur ce genre de jeu.
Mm.
C'est-à-dire qu'ils sont... Enfin, on se dirait, bon, Metroidvania, ok, la musique, tu vois. Mais non, ils sont allés chercher un gars qui a fait déjà de la musique de Metroidvania, donc qui sait un petit peu comment donner une couleur sonore à chaque zone.
Mm.
Parce que ça fait partie du jeu aussi, d'avoir des zones... au sein de l'univers interconnecté, d'avoir des zones très différentes les unes des autres, mais qui vont avoir une couleur, une tonalité vraiment marquée pour qu'on puisse bien comprendre, ok, là je suis dans telle zone, là je suis dans telle zone, et qu'on puisse avoir des repères quand on joue au jeu. Donc ils sont allés chercher ce gars, et franchement la musique est super cool, avec plein d'instruments traditionnels perses et arabes, et ça rend le truc vraiment vraiment chouette, assez original et assez, assez chouette. Et dernier point, c'est l'accessibilité du jeu. Je trouve que c'est excellent d'avoir réussi à faire un jeu, un Metroidvania qui est devenu avec les jeux indés un espèce de genre assez exigeant. Mmh. C'est-à-dire qu'on en a fait grâce à l'indépendance des studios et la volonté de cibler certains publics, on en a fait des jeux exigeants. Tu vois, Blasphemous, Hollow Knight, c'est des jeux exigeants, c'est dur.
Bah c'est vrai que les Metroidvania, je les conseille pas. Enfin, les gens qui me disent jouer un petit jeu sympa et tout, qui voient Hollow Knight, oh il est mignon, je vois.
Ouais, c'est voilà, c'est un peu,
mignon,
c'est un peu
Hollow Knight, mais voilà,
c'est technique.
C'est un peu technique, voilà. Alors qu'à l'origine, par exemple, je parlais de Symphony of the Night. Symphony of the Night, c'est pas un jeu difficile du tout à l'origine. Mmh. Et quand il joue, tu traverses le jeu sans difficulté. Le jeu est très punchy, très très action en fait, et pas vraiment difficulté.
C'est un jeu long par contre.
Ouais, mais.
Ah ouais, il est si long que ça.
Ouais.
Ouais,
bah, parce qu'il y a plein de twists, c'est twist.
Il y a un twist à un moment, en fait.
Il y a plein de twists et tout. Ouais. Mais par contre, tu vois, le jeu est très punchy, quoi. C'est, le jeu n'est pas là pour te faire mourir en boucle, comme peut l'être un Hollow Knight ou Blasphemous, qui a des inspirations, voilà, on le disait hier, mais très Dark Souls et tout. Là, non, ils
comme
vont
comme ça,
ils
il a réussi
ailleurs.
À caser Dark Souls dans le podcast.
Mais là, on va ailleurs, on va du côté du punch, du fun, de l'action. Et en fait, ils rendent le jeu accessible, déjà parce qu'il y a deux modes de jeu. Il y a un mode exploration, donc le mode un peu classique de Metroidvania, et un mode un peu assisté. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un mode un peu assisté où ils vont te placer des marqueurs sur la map pour te dire où sont les prochains objectifs, pour te guider, en fait. Et pareil, dans la difficulté du jeu, tu as quatre modes de difficulté. Tu as un facile, normal, un peu dur et très dur. Et en fait, et chaque mode te montre très bien... Ok, en mode normal, tout est à... Tu vois, il y a un pourcentage de dégâts des ennemis, de dégâts que tu reçois, de difficultés des pièges, tout ça, je sais pas quoi. Et en fait...
Il y a du challenge, quoi.
Voilà, il te montre très bien ce que ça implique de changer de niveau. Tu peux tout personnaliser. Donc en fait, ça en fait un jeu qui est à la fois technique, à la fois profond dans son gameplay, et en même temps qui est hyper accessible aux nouveaux venus. Mmh. Et je le dirais sans... Là, sans du tout péjoratif, parce que je me suis rendu compte que maintenant, j'adore les bébés. Je suis très fan de bébés, la vérité. Mais, en vrai, c'est le Metroidvania pour les bébés. Mmh. Et je le dis sans péjoratif, de manière vraiment pas péjorative, parce qu'en fait, le jeu est hyper accessible. Et c'est vraiment une porte d'entrée qui est géniale pour rentrer dans ce genre-là, tu vois. Et je trouve que c'est excellent d'avoir aujourd'hui, on est en 2024, et t'as Ubisoft qui sort un jeu comme ça, qui arrive à convenir à tout le monde, parce qu'il propose vraiment un panel
de choses
à modifier, de réglages qui convient à tout le monde, que le jeu, tu peux le mettre entre les mains, franchement, tu le mets entre les mains d'un très jeune, enfin très jeune, à toute proportion gardée, tu vois, mais d'un jeune qui n'est pas forcément à l'aise avec ce genre, tu lui mets le mode guidé, le mode pas trop difficile, et le jeu est hyper agréable. Hyper agréable, je trouve qu'ils en ont, c'est vraiment une vraie réussite, et j'espère que ce Metroidvania mainstream de Ubisoft va encore plus prouver au monde pourquoi le Metroidvania est le meilleur genre de jeux vidéo.
J'ai deux questions. J'ai
moi
une...
aussi, j'en ai deux du coup.
C'est vrai.
Bah ouais,
vas-y Marie, je t'en prie.
Non, vas-y. Okay, c'est toi qui as dit en premier.
C'est pas une question. J'ai lu apparemment qu'ils avaient mis du farsi en fait, du perse en fait, dans le jeu. Ce qui est quand même à saluer en fait. Ça renforce un peu l'immersion.
Ouais,
par contre, moi je me rappelle les grands moments de Prince of Persia, bon, c'est l'original avec sa superbe animation, et puis après c'est Les Cendres du Temps, où il y avait une mécanique autour du retour en arrière.
Ouais.
Est-ce qu'il y a ça dans le jeu ?
Il y a ça.
Ouais.
Il y a ça, et c'est intégré dans le gameplay de manière. Franchement, j'ai jamais joué à un jeu d'action en 2D qui réussit à intégrer ces mécaniques aussi de manière aussi maligne dans le jeu.
Ok.
Et je peux décrire vite fait si par un exemple si c'est
Vas-y,
possible. Bon. Vas-y.
En fait, il y a un système dans le jeu qu'on débloque au bout d'un moment. C'est en gros un retour dans le temps, dans le combat. En fait, on peut figer sa position à un instant, et en rappuyant sur le bouton, donc une gâchette, on revient à sa position initiale. En ayant conservé l'élan, l'attaque et tout. Ce qui fait que tu peux Par exemple, un des exemples qui est montré dans le mode, parce que pareil, t'as un mode entraînement avec tout un tas de un peu comme dans un jeu de combat, tout un tas de combos, ils t'apprennent plein de trucs, plein de combos, tout ça. Et en fait, t'en as un tout simple où en fait, ils te disent, tu charges ton attaque, parce que t'as une attaque chargée qui permet d'envoyer une vague dans les ennemis. Tu charges ton attaque, t'appuies sur la touche où tu fiches ta position, tu lâches ta charge, donc t'envoies le truc, et après tu rappuies sur le truc qui permet de revenir à ta position. Ce qui fait qu'en fait t'enchaînes l'attaque deux fois.
Ah, tu peux en envoyer deux, okay. Ok, d'accord. Et t'as une jauge de retour dans le temps comme ça en fait?
Non, même pas. Non, tu t'appuies, pareil dans les puzzles, il y a plein de puzzles, du coup tu vas dire, ok, mais en fait avec ce système-là, je peux passer par là, tac, je fige ma position à un instant T, je rappuie... Tu tires un truc qui te permet de faire apparaître la plateforme sous ta position précédente, tu rappuies, tu te mets dessus. Enfin, c'est ouf. C'est ouf. Pareil, tu vois, pareil, je parlais des juggles où t'envoies les ennemis en l'air, tac, tu fiches ta position, tu le tapes, tu redescends, tu remontes en l'air, en fait, grâce à ton retour dans le temps. Enfin, c'est hyper riche et je trouve que, c'est un exemple de vas-y, c'est trop réussi. Ils ont été trop malins et trop précis, trop intelligents et je trouve que. Bravo, et c'est pas tous les jours que je dirais ça de Ubisoft.
Ubisoft, c'est ce que j'allais dire. Ouais,
franchement, excellent, quoi.
Moi, du coup, il y en a une, c'est une remarque, c'est plus que... Bah, en fait, le Metroidvania, moi, c'est pas mon style de jeu favori, mais c'est vrai que Prince of Persia m'avait bien tenté, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un Metroidvania qui m'attirait, parce qu'Hollow Knight, autant je trouve plein de qualités, autant je sais que ça va un peu me saouler au bout d'un moment, voilà. J'ai regardé des let's play, histoire d'avoir le jeu, mais... J'y ai pas joué moi-même, du coup, c'est vrai que Prince of Persia me tentait bien.
Ah, franchement, faut y aller.
Ce qui est dommage, c'est que du coup, on va l'acheter et je vais pas avoir le temps d'y jouer ici, donc je vais devoir l'acheter par mes propres deniers. Et ça, sachez que c'est un vrai crève-cœur pour moi.
On va peut-être te trouver des solutions.
Non, ça, du coup, c'était ma
première...
Après,
je te parlerai de mes techniques.
J'en connais après d'autres techniques, mais bon, on va dire, voilà. Restons sur une technique...
Il y a des techniques, vas-y.
Mon deuxième point qui est une question. Blaise, tu penses quand même pas t'en sortir comme ça. Enfin, tu nous fais toute une chronique de 30 minutes sur le Metroidvania. Et tu nous fais même pas de classement.
Le classement des Metroidvania.
Bah, toi tu préfères top 3 ou top 5?
Oh, top 3.
Top 3 des Metroidvania. Moi là, c'est compliqué parce que étant dans Prince of Persia, je serais peut-être un peu biaisé.
Ouais. Et ben on enlève Prince of Persia si t'as peur d'être biaisé dans ce cas-là. Ça me fait mal d'enlever Prince of Persia alors que je peux avoir un top 3 de Blaise où il met un jeu Ubisoft dedans.
Ah, ça, ouais, c'est clair.
Allez, vas-y. Top 3, donc 3ème, je mettrais Prince of Persia.
Ok.
Top 2, je mettrais Hollow Knight. Et top 1, je mettrais Blasphemous 2.
Ok.
Si je dois donner un ordre. Après,
ils ont fini Off the Night, jamais quoi en fait.
Ils ont fini. Non mais gros, il a 50 ans. C'est bon.
Il y a 50 ans, on est dans l'abus toujours plus, mais ok.
Non, mais après, oui, c'est vrai que c'est un excellent jeu et il est hyper intéressant, ne serait-ce que parce que c'est le premier quoi. Et que c'est pareil, il y a des techniques très simples pour y jouer facilement maintenant, donc faut pas.
Ouais.
Franchement, faut pas hésiter. Le jeu est hyper moderne en plus, les contrôles sont hyper simples, ça va super vite. Franchement, il est hyper facile à jouer aujourd'hui. Donc moi je dirais faut y aller. Après ouais, Hollow Knight parce que c'est le Metroidvania par excellence qui a été modifié, transformé, amélioré. Enfin c'est vraiment vraiment excellent. Après effectivement il y a une forme d'exigence et de difficulté dans le jeu qui peut rebuter. Parce que le jeu il se laisse pas faire et franchement faut s'accrocher.
Non mais ça je trouve ça vraiment cool. Moi c'est plus qu'il y a plein de fois où en fait je lance parler, j'ai juste envie de passer un
bon moment et pas souffrir. Je suis pas
et là au bout de 3 minutes me dire punaise j'ai enfin réussi à passer ce petit niveau.
Franchement Prince of Persia tu vas franchement et puis pareil et Blasphemous 2 parce que pour moi c'est le alors il y a un côté scolaire comme tu disais Marie tout à l'heure dans Blasphemous 2 c'est indéniable mais par contre tout est hyper 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 bien rythmé en termes de construction de la map d'armes différentes de progression du personnage franchement il est vraiment 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 top pour moi ouais je pense que c'est peut-être le plus scolaire et en même temps le meilleur tu vois d'une certaine manière Blasphemous 2.
Ok
Voilà, et après, au-dessus de tout ça, il y a Dark Souls 1, qui est le Metroidvania en 3D. Et
il a réussi à caler.
Le premier Metroidvania en 3D, qui Dark est Souls. Un Metroidvania, donc jouez-y en 3D, machin, qui c'est est le meilleur.
Voilà, donc avant le qu'il nous hack une nouvelle fois de plus ce voilà. podcast en
Alors,
faisant
Dark
une chronique.
Dark Souls, sorti en 2011.
Ah ouais, voilà, exactement studios, ce que je disais.
From Software.
From Software, alors, From Software, si vous connaissez pas...
Non, non, c'est bon. Je
en plus, on a déjà fait un podcast dessus.
Bah oui, bien sûr qu'on a déjà fait un podcast.
Mais
dessus.
On en a pas assez parlé, je pense. Donc,
si, on en a extrêmement parlé. C'est bon, on arrête là. Ça, rien ne va plus. Je perds le contrôle. Je vais me retrouver dans un podcast où on parle de From Software. Alors
vous
que
parlez
je...
des 11 secrets à découvrir dans Dark Souls. Non, avec une miniature comme ça.
Oh là 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 là. Non.
Terrible. Bon, bah
c'est
voilà.
C'est moi qui fais les miniatures, donc non.
Bon, bah voilà.
Est-ce que vous allez jouer à des Metroidvania alors maintenant?
Est-ce que bon, moi je joue
Est-ce que vous allez jouer à Prince of Persia?
C'est un de mes
jeux préférés
de toute façon.
Jouer à Prince of Persia.
Bah, Prince of Persia, ouais, j'avais un peu de doute, mais ouais.
Et franchement, faut pas hésiter, je pense, à se servir de tous ces réglages justement pour faire son expérience personnalisée,
ouais, ouais, bien sûr,
tu
ouais.
vois, la plus cool, parce que franchement, le jeu est vraiment vraiment cool.
Bah
vraiment
c'est vrai cool. que moi, il y a beaucoup de jeux auxquels je joue où finalement il y a déjà une map et c'est bête, mais du coup, des fois, quand je me retrouve sur des jeux où il y a pas de map, je suis un peu en mode ah ouais, c'est vrai que ça existe aussi. Comment
bah
je
là...
fais?
Là, tu la découvres petit à petit. T'as plein de solutions où tu peux acheter des éléments de la map pour
ouais,
les débloquer.
Ouais, ouais.
Enfin, c'est vraiment, il est vraiment hyper cool. Hyper
non,
cool.
mais il avait l'air vraiment cool. Non, vraiment
franchement,
cool.
Franchement, il va dans plein d'endroits et tout ce qu'il fait, il le réussit. Donc, merci, merci Ubisoft.
C'est donc la fin de ce 20e épisode.
C'est ça.
Ouais,
c'est ça. Donc,
l'alarme à l'œil, le dernier, c'est la dernière fois que vous entendrez Marie de votre vie.
Alors, j'espère pas. Enfin, je ne meurs pas. Je pars juste vers de nouvelles aventures. C'était très bien d'enregistrer ces épisodes à trois quand même. C'était cool. Enfin, il me semble. Moi, en tout cas, c'était cool. J'ai trouvé.
C'était ouais, très cool c'était aussi cool. pour moi.
C'était cool. Voilà.
Merci Marie.
Franck, il va pleurer bientôt, je pense.
J'ai le nez dans l'antipop.
Ouais.
Non, mais merci, merci beaucoup Marie. Et on va essayer de continuer ces aventures. On va essayer de continuer ces. Non.
Vous n'avez jamais compris.
Non, quel menteur, hein, c'est arrêté.
je rigole, mais j'avais trop en sourire, ça n'a pas marché.
On va essayer de continuer nos aventures avec Blaise, ouais. avec Blaise, en tout cas, sur le podcast. Et ouais, merci, merci beaucoup.
Merci à vous.
Salut,
à la prochaine.
Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez testé le jeu. A bientôt pour un autre épisode de Point de Sauvegarde. Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder.